France Musique. Musicopolis. Mars 1901, Prague. La soirée a été bien annoncée et le tout Prague se presse vers le Théâtre National. Le chef Karel Kovářovic va diriger ce soir la nouvelle œuvre de celui qui est reconnu actuellement comme le plus grand compositeur tchèque vivant, Antonín Dvořák. La représentation de Rusalka, le nouvel opéra de Dvorak, va merveilleusement se passer en ce 31 mars 1901. Et pourtant, les dernières répétitions ne sont pas allées sans mal. Le nouveau chef, Karel Kovářovic, nommé quelques mois plus tôt, a des détracteurs dans l'orchestre. Et les musiciens se sont mis en grève au mois de février, alors que la première approchait. En réponse à la grève de l'orchestre, en toute hâte, la direction du Théâtre National de Prague a engagé des musiciens qui ont dû répéter Rusalka à toute vitesse. Comble de malchance, le ténor qui tient le rôle principal masculin déclare forfait le jour même de la première, sauvé heureusement grâce à sa doublure. La représentation aura bien lieu, mais que d'émotion! Rusalka, lit-on dans le journal Osvieta, offre à Dvorak le plus large éventail pour sa musique. L'ouvrage est plein de passages lyriques dans lesquels l'invention mélodique si suggestive du maestro trouve sa place naturelle. Tout dans Rusalka est pris dans ce mélos délicatement douloureux, si spécifique à Dvorak. Et même là où les rapides changements d'humeur du dialogue demandent à l'instant d'user de phrases mélodiques caractéristiques, le fil musical est tissé avec aisance, pour former un tout facilement perceptible. L'auditeur peut s'y retrouver sans effort, heureux de savoir qu'il n'est pas perdu dans un labyrinthe. Le poète à l'origine du livret de Rusalka, Yaroslav Kvapil, ne l'a d'abord pas destiné à Dvorak. En 1899, il entame ce travail à la demande d'un compositeur assez obscur installé en Ukraine. Or, pendant qu'il écrit cette histoire, inspirée de plusieurs récits ou contes fantastiques autour de créatures de l'eau, ondines, sirènes et autres nymphes, Kvapil prend conscience qu'il s'agit d'une œuvre de qualité et qu'après tout, elle pourrait sans doute convenir à un compositeur de plus haute réputation. Il va donc contacter tous les musiciens tchèques de la jeune génération, ceux qui ont entre 25 et 40 ans, Nedbal, Kovářovic, Förster, Suk. Sans succès. Ils sont tous pris par d'autres projets. Le librettiste n'ose pas s'adresser à Dvorak, si célèbre et qui a la réputation d'être un peu bourru. jusqu'à ce qu'il lise une note du directeur du Théâtre National, révélant que justement, le grand Dvorak cherche un livret pour son futur opéra. Jaroslav Kvapil ne l'avait pas imaginé, mais son livret correspond en tout point à ce qu'aime Dvorak. En particulier, l'écrin de nature qui entoure les personnages. Le premier et le troisième acte se déroulent en pleine forêt, au bord d'un lac. Le deuxième, sur les bords d'un étang dans le parc d'un château. Après avoir suivi le génie des eaux et les nymphes qui s'ébattent joyeusement dans l'eau, nous allons faire la connaissance de l'héroïne de l'opéra, Rusalka. Assise sur le tronc d'un saule qui surplombe le lac, elle est triste et pensive. Même si nous ne voyons pas le décor, la musique de Dvorak nous suggère le caractère merveilleux du personnage. Rusalka n'est pas humaine, ni mortelle. C'est une créature des ondes, à sa place parmi ses sœurs dans les eaux du lac. Rusalka s'adresse au génie des eaux et lui demande conseil. Elle est triste à mourir, elle voudrait quitter les profondeurs du lac, devenir humaine et vivre au beau soleil. Elle voudrait avoir une âme. On comprend bien comment les spectateurs ont pu être happés par la musique de Dvorak et par les mélodies sensuelles de la Rusalka. Le premier acte regorge de passages dans lesquels l'héroïne exprime ses tourments de manière à faire fondre le plus récalcitrant parmi les humains ou parmi les créatures surnaturelles. Elle est tombée amoureuse d'un homme qu'elle décrit au génie des eaux. Il vient souvent ici, recherchant mon étreinte, dépose sa veste au bord, puis entre mes bras se baigne. Mais je ne suis qu'une onde et il ne peut me voir. Je sais qu'en femme, d'abord, je devrais être changée pour qu'il puisse m'embrasser et me donner des baisers comme moi quand je l'étreins et l'entoure de mes bras. C'est la soprano Ruzhena Maturova qui a créé le rôle de Rusalka dans l'opéra de Dvorak. Difficile en l'absence d'enregistrement de savoir comment elle interprétait le rôle. Mais on peut se rendre compte un tout petit peu de sa voix en écoutant un petit extrait d'enregistrement qu'elle a réalisé en 1902 d'une chanson populaire tchèque. Même avec cet enregistrement ancien, on entend que la voix de Ruzhena Maturova est claire, franche et limpide. Mais on imagine bien que le style de chant d'aujourd'hui, par exemple dans la version dirigée par Charles Maqueras avec René Fleming dans le rôle titre, n'a rien à voir avec ce qu'ont pu entendre les auditeurs du 31 mars 1901. L'un des airs les plus connus de Rusalka est celui où l'héroïne invoque la lune. « Ô lune, chante-t-elle, arrête-toi un moment. Dis-moi, veux-tu, où est mon amour? Dis-lui, lune argentée, que je le serre sur mon cœur. Va, trouve-le dans le vaste monde. » On entend que si la ligne vocale est évidemment superbement mise en valeur dans la Rusalka de Dvorak, l'orchestre a lui aussi un rôle primordial. Il est élevé au rang de personnage principal, qui se coule dans les multiples décors du livret, par exemple la cabane de la sorcière Yeji Baba, qui promet de faire cuire des potions pour donner forme humaine à Rusalka. L'orchestre représente en quelque sorte la nature omniprésente dans Rusalka. Le fils de Dvorak écrit de lui « En contemplant toute la splendeur de la nature, il prenait conscience qu'il avait besoin de rejoindre cette force authentique, cette majesté, pour s'unifier à elle, et cette nature muette et mystérieuse lui répondait avec une immense ardeur. » Nous entendions tout à l'heure comment Dvorak créait un écrin orchestral enchanteur pour y enchâsser le chant de Rusalka. On entend ici comment la nature se rapproche des humains avec les cors sonnant la fin de la chasse. C'est l'entrée en scène du prince, celui dont Rusalka est amoureuse. Elle vient de sortir de la cabane de la sorcière qui l'a rendue humaine et visible par le prince, mais, car il y a un mais, la jeune fille est à présent muette. Et c'est l'orchestre qui va la remplacer dans le duo d'amour qu'elle ne peut pas chanter avec le prince. Au printemps 1900, Dvorak a commencé d'esquisser le premier acte de Rusalka. Il commence ce travail à Prague, où il vit et où il enseigne au conservatoire. Le 10 juin, il écrit à un de ses amis qu'il est empli d'enthousiasme et de joie. Puis, au début de l'été, il part pour la campagne, où il va avancer sur les deux premiers actes. Il correspond avec Kvapil, son librettiste, pour lui demander quelques modifications, pour améliorer avec lui quelques effets, toujours en sollicitant son approbation. Il revient à Prague au début de l'automne, où il va terminer le troisième acte fin novembre. Après les péripéties malheureuses du deuxième acte, c'est seulement dans la dernière scène du troisième acte que les amoureux pourront chanter le duo d'amour qui n'a pas pu avoir lieu auparavant puisque Rusalka était muette. Mais s'ils sont réunis, c'est seulement parce que le prince, consentant, va mourir en embrassant sa bien-aimée et qu'elle-même va retourner au fond des eaux à jamais. La scène finale de Rusalka d'Antonin Dvorak, avec René Fleming en Rusalka, Ben Heppner en prince et la Philharmonie tchèque dirigée par Sir Charles Maceras. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Cédric Chatelus pour le mixage, Françoise Monteil et Valentin Carpentier pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.